Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Son mari est devenu à lui seul le symbole du cocu.
Mais oui, poète, poète.
On ne parle pas de vous, Clémentine, on ne se permettrait pas vis-à-vis de votre mari. Elle, en revanche, s'est permis et a fini dans le lit du roi Louis XIV en cachant bien son jeu au reste de la cour. Stéphane Bern se permet aussi et nous raconte celle qu'on appelle la Montespan.
Nous sommes en mars 1669 dans une petite maison de la rue de l'Échelle à Paris. La maîtresse du roi Louis XIV, la marquise de Montespan, est sur le point d'accoucher de son premier enfant. Aux premières douleurs, une servante est allée chercher un médecin qui fait le trajet en carrosse, les yeux bandés, et découvre en arrivant une chambre très simplement meublée. Dans un lit se trouve la marquise. À ses côtés se tient un homme nerveux, inquiet. Il s'agit de Louis XIV. Le médecin feint de ne pas reconnaître le souverain et demande à boire et à manger, ayant été enlevé juste avant son souper. Louis XIV apporte un pot de confiture, du pain et verse lui-même du vin à l'accoucheur qui lui propose de boire quelque chose. Le roi refuse. Souriant, le médecin lui dit que pour que la parturiente soit promptement délivrée, il doit boire à sa santé. Cette scène, rapportée par la France galante au XVIIe siècle, est largement romancée, mais nous permet de voir les précautions exceptionnelles qui furent prises pour cacher la grossesse de Madame de Montespan. Françoise Athénaïs de Montespan, d'abord connue sous le nom de Mademoiselle de Tonnet-Charente, est née le 5 octobre 1640 dans le Poitou. Elle est la seconde fille de Gabriel de Rochechouart de Mortemart, premier gentilhomme de la chambre de Louis XIII et de Diane de Grandseigne. Françoise Athénaïs est élevée au couvent Sainte-Marie à Sainte, où elle apprend le nécessaire pour devenir une bonne épouse de haut rang, religion, économie domestique et bonne manière. À 20 ans, elle intègre la cour de Louis XIV comme fille d'honneur de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, puis dame d'honneur après son mariage avec Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan. On murmure que la reine aurait souhaité des suivantes vieilles et laides pour ne pas tenter son époux Louis XIV, coureur de jupons notoires. Mauvaise pioche avec Madame de Montespan qui brille par son exceptionnelle beauté. Elle a une épaisse chevelure blonde, des yeux bleus et un teint éblouissant, sans compter que sa conversation est infiniment brillante. Elle pique le roi, le taquine, sans pour autant céder à ses avances. « Dieu me préserve de devenir la maîtresse du roi », aurait-elle dit à la propre femme de Louis XIV avant de se résoudre à lui ouvrir sa couche quelques jours plus tard lors d'un déplacement de la cour en Flandre. La reine ne soupçonne rien de cette liaison. Un jour, en dînant, elle se plaint que le roi se couche très tard le soir. Louis XIV lui répond que c'est parce qu'il est occupé à lire des dépêches. Et la reine de lui répondre « Mais vous pourriez prendre une autre heure ». Le roi tourne la tête de côté pour dissimuler un sourire. Pour l'instant, la favorite officielle de Louis XIV, Louise de la Vallière, sert de paravent au couple, ce qui permet à Athénaïs de Montespan de préserver les apparences vis-à-vis de son propre mari. Comment apprend-il la nouvelle de son déshonneur? Surprit-il des commérages? On l'ignore. Toujours est-il que, mis au courant, le marquis élabore une vengeance des plus raffinées en fréquentant des prostituées pour attraper une maladie honteuse, la transmettre à sa femme et par elle contaminer le roi Louis XIV. La marquise de Montespan, épouvantée, fait tout pour l'éviter. Enceinte du roi, la Montespan donne le change en mettant à la mode une robe bouffante qui a l'avantage de cacher son ventre. Quand naît le second fils de la marquise et du roi, qui sera le futur duc du Maine, l'accouchement a lieu en secret au château de Saint-Germain. Un courtisan, dans la confidence, se charge d'emporter l'enfant sous son manteau et traverse ainsi l'appartement de la reine, tremblant que le bébé ne se mette à pleurer. Il remet le bébé à une gouvernante qui attend dans une voiture à la sortie du parc. Cette gouvernante, engagée par Madame de Montespan, qui n'a accepté cette tâche qu'à la demande expresse du roi, s'appelle Madame Scarron. Plus connue ensuite sous le nom de Madame de Maintenon, elle sera la dernière épouse de Louis XIV. Mais pour l'heure, elle élève les bâtards royaux dans la plus stricte discrétion, se déguisant pour leur rendre visite et se faisant même saigner de peur de trahir son secret en rougissant. Elle disparaît alors quasi totalement de la société mondaine. Enfin, après 6 ans de clandestinité, les enfants du roi et de Madame de Montespan, ils en auront 7 au total, sont légitimés en 1673 et peuvent se rendre à la cour où la faveur de la marquise de Montespan est à son zénith. Elle dispose d'un appartement plus grand et plus somptueux que celui de la reine Marie-Thérèse, elle-même et touche une pension annuelle de 6000 livres. À cela s'ajoutent les nombreux présents que lui offre son royal amant, dont le château de Clagny, œuvre de Mansart, et le Trianon de porcelaine à Versailles. Autour de la marquise de Montespan, la vie de cour bat son plein. Dans les salons, on joue des sommes folles. Le soir, on navigue en gondole sur le canal, au son des musiciens. À 10h, une comédie est donnée. Quand minuit sonne, on fait media noche, un repas pris au milieu de la nuit. Mais cette joie est factice. Avec l'âge et les nombreuses maternités, la beauté de la marquise se ternit. Et le roi regarde déjà ailleurs. Il lui laisse son rang de favorite en titre, mais la délaisse au profit de la duchesse de Fontanges, une jeune nymphe aux cheveux d'or et aux grands yeux bleu-gris. Quand cette dernière meurt en 1681, des rumeurs d'assassinat courent. On accuse la marquise de Montespan, qui se trouve par ailleurs impliquée dans la célèbre affaire des poisons. Une série de scandales impliquant des empoisonnements à la cour. Madame de Montespan aurait fait sacrifier des nouveaux-nés lors de messes noires. Elle aurait aussi fait fabriquer un filtre d'amour à destination du roi, qu'il évite désormais. Le souverain préfère passer de longues heures en compagnie de l'ancienne gouvernante de ses enfants, cette discrète veuve Scarron, engagée naguère par Athénaïs de Montespan et qui l'a faite marquise de Maintenon. Le roi lui donne un appartement contigu au sien, faisant ainsi publiquement éclater sa faveur aux yeux des courtisans. Désormais raillée par ceux qui autrefois la flattaient, se voyant retirer l'éducation de ses derniers enfants légitimés, la marquise de Montespan quitte la cour de Versailles. Réfugiée au couvent Saint-Joseph à Paris, puis au château d'Oiron, elle fait la preuve d'une fervente piété et consacre une partie de sa fortune à faire la charité. Elle s'éteint le 27 mai 1707, sans avoir revu Louis XIV, qui ne verse pas une larme en apprenant la nouvelle.
C'est pas très gentil.
Si le souverain pense en avoir fini avec son ancienne favorite, il se trompe. Lorsqu'il meurt à son tour en 1715, on expose sa dépouille sur un lit d'apparat descendu des combles du château de Versailles. Personne ne remarque alors que dans le ciel du lit se trouve un portrait oublié de Madame de Montespan dans ses années de gloire. Jusqu'au bout, la belle marquise a su tromper son monde pour rester dans la couche du roi.